Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 mai 2022. La semaine qui vient de se terminer aura été épique, déprimante et désespérante. Ce n'est pas que l'on ait appris de grandes choses ou que nous soyons plus au clair sur la condition économique dans laquelle nous sommes. Au contraire, mais disons que la semaine dernière, nous avons appris à interpréter les mêmes choses sous plusieurs angles et ensuite on les a interprétées de différentes manières et on s'est fait balader dans tous les sens. Je suis bien conscient que mon accroche de ce matin ne veut pas dire grand-chose, mais il faudra bien vous rendre à l'évidence. Tant que ces marchés seront complètement débiles dans leur fonctionnement, je ne pourrai pas dire des choses intelligentes. Essayons de récapituler, essayons de comprendre la logique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Même si le mot « logique » est clairement le dernier qu'il faudrait utiliser dans ces instants pathétiques. Il me semble important d'essayer de comprendre ce qui nous donne l'impression de passer notre temps dans un grand huit émotionnel qui ne s'arrête jamais. Commençons donc par le début, l'inflation. Il y a encore quelques mois, nous étions en train de préparer les cadeaux de Noël, de choisir la taille de la dinde et que nous étions en train de vérifier si l'on rentrait encore dans nos pantalons de ski pour la saison à venir. Le patron de la fête, le bien-aimé Jérôme Powell, est venu tourner la veste et exprimer ses craintes quant au fait que l'inflation ne serait plus vraiment transitoire et sous contrôle, comme il nous l'assurait depuis des mois, mais qu'en fait la dite inflation était plutôt en train de nous péter à la figure. À partir de là, le marché, l'économie et les experts en tout ça ont pris conscience que l'effet Covid, taux zéro et argent facile pourraient éventuellement devenir un problème, et même plus qu'éventuellement. Que la Fed allait devoir faire quelque chose, probablement des frappes chirurgicales à coups de taux d'intérêt qui montent, et c'est ainsi que l'on a commencé l'année. Dans la foulée, Vlad l'Empaleur s'en est pris à l'Ukraine, tout le monde a coupé les vivres à la Russie en signe de représailles, Macron s'est pris pour Kennedy, on s'est rendu compte que le prix des céréales allait prendre l'ascenseur, que le pétrole, qui se retrouvait privé de la production russe et qui faisait face au retour de la demande sur les énergies fossiles, allait partir au ciel, et que les 200$ le baril n'étaient plus à exclure. Et que, du coup, la hausse des céréales, des matières premières, du pétrole, sans parler du gaz, allait forcément faire péter l'inflation qui, pour le coup, n'était plus du tout transitoire et encore moins sous contrôle. L'évidence s'imposait donc à nous qu'il allait falloir monter les taux pour freiner tout ça, pour autant que l'on puisse encore le faire. Oui, parce que le problème dans tout ça, c'est que l'on sait que monter les taux est la seule arme pour freiner l'inflation. Mais que l'on sait aussi que l'arme en question est à peu près aussi précise et facile à utiliser que si l'on utilisait un marteau-piqueur pour se brosser les dents. Elle risque de faire plus de mal qu'être efficace. Et c'est que l'on commence à avoir mal partout. On se retrouve dans une phase inflationniste qui risque de nous faire surchauffer et en même temps, la seule solution que l'on a le pouvoir de faire caler cette économie qui se remet à peine d'une pandémie qui n'est peut-être même pas réglé si l'on en croit les scientifiques et le gouvernement chinois. Notre bien-aimé Jérôme Powell se retrouve donc devant un choix cornélien. Au point 1, premier choix, il monte les taux vite et fort, freine l'inflation, plante la reprise économique et tout, et nous envoie en récession, et tout le monde pensera que c'est un salaud et qu'il faut le pendre haut et court. Deuxième solution, il ne monte pas les taux assez vite, l'économie reprend sa route, mais l'inflation nous pète à la figure et tout part en vrille. À ce moment-là, tout le monde pensera que c'est la faute de Powell, qu'il n'a pas agi de la bonne manière, que c'est un salaud et qu'il faut le pendre haut et court. La bonne nouvelle pour Powell, c'est que quoi qu'il fasse, ça sera un salaud et il faudra le pendre haut et court. Il sait donc exactement où il va. En revanche, pour ce qui est des marchés et du monde merveilleux de l'investissement, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, les investisseurs, les experts en finance et autres traders, avons très bien compris dans la position dans laquelle nous nous retrouvons. Nous devons interpréter ce que l'on annonce, en tirer des conclusions et prendre des décisions d'investissement pour les 12 prochaines heures. Puisque oui, tout le monde le sait, depuis le début de l'année, on a revu nos horizons d'investissement. Le court terme se compte en millièmes de seconde, le moyen terme ne dépasse pas une heure et le long terme atteint péniblement les 24 heures. Et encore, nous avons acquis au cours des années cette capacité à changer d'avis comme de chemise, puis ensuite à faire tout et son contraire en l'espace de moins de quelques heures. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est d'ailleurs ainsi que l'on peut résumer la semaine. Lundi, on ne fait pas grand-chose parce qu'on attend la Fed. Mardi, on ne fait pas grand-chose mais on est angoissé parce qu'on attend la Fed. Mercredi, la Fed va parler, alors dans le doute, l'Europe vend tout parce qu'elle a peur que la Fed va monter les taux. Le soir, la Fed monte les taux de 0,5% comme l'avaient prévu à peu près 140% des experts en taux d'intérêt de la planète. mais c'est surtout le fait que Powell nous dise qu'il ne compte pas monter les taux à coût de 0,75% qui nous rassure et qui fait exploser le marché à la hausse. Jeudi, les Européens tentent de rattraper le retard accumulé, mais entre deux, les Américains ont réfléchi. Et en plus, ils ont trouvé un nouveau chiffre qui va tout changer, la production des entreprises non agricoles. Chiffre que l'on ne regarde jamais, dont on n'a plus entendu parler depuis 1984, mais qui a la particularité de n'avoir plus jamais été aussi faible depuis 1947. À partir de là, on s'est dit que l'économie était en train de caler et que la Fed n'allait jamais pouvoir monter les taux plus haut, ce qui voudrait dire que l'on va avoir une inflation galopante et une croissance molle, ce qui est pire que tout. On a même mentionné le mot stagflation, ce qui est pire que tout. Stagflation, c'est si on ne sait pas ce que ça veut dire, rien qu'à l'entendre, on sait que c'est moche. Le marché se fait alors défoncer, comme si on venait de nous annoncer que l'on a découvert du potage de chauves-souris infectées au Covid-19 et que les médicaments et les vaccins de Pfizer ne fonctionnent pas pour lutter contre. Alors vendredi, en dehors du fait que c'est le jour du poisson, c'était aussi le jour des chiffres de l'emploi américain. On nous a annoncé qu'en avril, en plus de ne pas s'être découvert d'un fil, qu'ils avaient créé aussi 420 000 emplois. Plus ou moins 30 000 de plus que ce que les experts attendaient. Ce qui était techniquement une bonne nouvelle, puisqu'il y avait au moins il y avait moins de chômage. Et que c'est quand même plus sympa de pouvoir trouver un job quand on en a besoin. Oui, sauf qu'en ce moment, si tu crées trop d'emplois, tu te retrouves avec plus de gens qui ont un salaire, plus de gens qui vont aller claquer du pognon dans des biens de première nécessité, une brosse à dents, un jeans neuf, un iPhone et une Tesla S. En gros, on a de nouveau peur de l'inflation galopante, tout en sachant que la Fed aura quand même de la peine à trop monter les taux, vu qu'elle risque de freiner l'économie et qu'en même temps, sans monter les taux, elle va favoriser l'inflation. Le dilemme est kafkaïen, et comme dans tout dilemme kafkaïen, dans le doute, on a tout vendu. Même les super boîtes qui font des super bénéfices et qui disent qu'ils sont confiants en l'avenir, même elles se font massacrer. Il faut vite sortir, se planquer, on ne sait pas où, puisque plus rien ne monte, sauf le pétrole. Ce qui va bien nous aider au niveau inflation. Nous voici donc dans une merde noire. Nous avons une inflation qui n'est plus sous contrôle et qui n'est plus du tout transitoire. Nous avons une économie qui est dynamique mais qui est fragile et qui menace de nous lâcher à la première occasion et on ne sait même plus où aller se planquer. L'or semble être dans le coma, les cryptos viennent de se faire défoncer durant tout le week-end et le Bitcoin a perdu 50% depuis ses plus hauts historiques. Le rendement du 10 ans est à 3,14%, le pétrole est à 110$ et à écouter les experts, c'est encore bon marché par rapport à ce qui nous attend et quand tu arrives au bureau à 3h30 du matin pour préparer ta journée, tu vois que les futurs américains sont déjà en baisse de 1%, que l'Asie est dans le rouge et que le marché se comporte en vrai bear market. Techniquement, on va pas se mentir, les charts sont à vomir et les tendances descendantes sont clairement en train de se confirmer aux USA. Pendant ce temps, la moitié des gourous sont sortis pour dire que l'on va tous mourir, que le marché peut encore perdre facilement 20 à 25%, que l'on a besoin de purger le marché, de souffrir encore beaucoup plus qu'avant que ça aille mieux, bien sûr, et qu'en plus, le marché immobilier pourrait bien nous exploser à la figure dans les mois qui viennent. Le marché immobilier américain, bien sûr, on se souvient tous comment ça a fait en 2008, et on s'en passerait donc largement. Nous sommes donc en mode attaque des ours et il va falloir s'accrocher au bastingage parce que ça pourrait encore secouer. Nous sommes au début d'une semaine qui pourrait être prometteuse en termes de dodane, de doute et de mal des transports. La volatilité est en train de remonter dangereusement et même s'il n'y a pas de grandes nouvelles à attendre qui pourraient changer la face du monde, on sent que l'angoisse est palpable. C'est ce genre de semaine qui donne l'impression que cette fois, on va se la prendre, et qui pourrait peut-être se terminer en hausse parce que c'est tellement évident qu'on va se la prendre, à moins qu'on se la prenne vraiment cette fois-ci. Manquerait plus que Macron nomme Mélenchon comme Premier ministre et ça serait la totale. En tous les cas, en lisant la presse de ce lundi matin, on a clairement l'impression que nous sommes au bord de la panique et que le sell-off final n'est pas encore parmi nous. Par contre, vu que notre capacité de raisonnement a été clairement mise à mal ces derniers temps, on a également l'impression que tout peut arriver et que cette semaine pourrait être intéressante à suivre. Nous aurons encore une semaine bien active en termes de chiffres du trimestre, pas ou peu de grands noms, mais plein de noms qui sont susceptibles de nous faire des swings monumentaux. Je pense à des Roblox, Palantir, Walt Disney, Sophie, Coinbase, Bumble ou encore BioNTech. La semaine commence donc sur les chapeaux de roue et pour être franc, quand on voit ce qu'on voit ce matin, qu'on entend ce qu'on entend, eh ben on a bien raison de penser ce qu'on pense. Personnellement, je suis dans le milieu depuis 1987 et je pense en avoir vu des vertes et des pas mûres dans ce marché. Mais là, depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est à cause de la technologie qui nous a rendus plus cons ou si c'est juste que l'on a arrêté de réfléchir pour tout confier aux ordinateurs. Mais par moments, j'ai l'impression que les réactions des marchés sont vides de sens et dépouillées de la moindre réflexion. Pour le moment, les futurs sont donc dans le pâté. Il n'y aura pas un chiffre économique qui vaille la peine d'être suivi aujourd'hui ou attendu. Et on peut déjà espérer que l'on va limiter la casse. Quoi qu'en même temps, c'est toujours quand on n'y croit plus que ça repart. Et puis, ceux qui veulent continuer à s'angoisser, pour ceux qui le veulent, je vous recommande la lecture du dernier rapport de Bank of America, parce qu'ils ont calculé très précisément que le bear market prendra fin le 19 octobre cette année et que le S&P 500 sera alors à 3000 points. Alors vous savez quoi ? Moi je vous revois le 20 octobre à la même heure et au même endroit. Très bon début de semaine à tous. Allez, à demain.